Donc déjà, merci beaucoup à toute l'équipe de l'IFE pour cet accueil. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous, de travailler avec vous et de co-construire avec vous, hein. Effectivement, quand on est enseignant-chercheur, tout l'intérêt, c'est de pouvoir travailler avec les collègues, quel que soit leur statut, leur fonction. Et c'est comme ça qu'on progresse ensemble. Alors aujourd'hui, donc la commande, puisque vous avez vu qu'il s'agit de parler de grille de lecture, hein, quelle grille de lecture on a pour appréhender le plurilinguisme, et puis quels outils on peut avoir finalement et quelles activités proposer pour embrasser cette situation de multilinguisme et d'interculturalité. Je vais aussi vous parler d'interculturalité, hein, en classe ordinaire. Et je vais vous présenter un modèle que j'ai appelé le diamant langagier. Vous verrez tout à l'heure les raisons. Alors juste quelques mots pour vous dire, parce que j'ai vu que certains viennent de loin, d'Amiens, de Versailles. Enfin, c'est pas si loin, mais quand même. Donc pour vous parler de l'université de Montpellier, une anecdote, mais qui concerne le plurilinguisme et l'interculturel. Parce qu'on a vu finalement, Enrique en a parlé, Frédéric aussi, tout à l'heure, Catherine également, c'est qu'on voit souvent les tensions que provoque le fait d'être dans un contexte de diversité, d'être dans une situation multilingue avec des langues qu'on ne connaît pas, avec des expériences culturelles qu'ont nos élèves, mais on ne voit pas très bien finalement comment on pourrait les mobiliser comme des ressources. Et je voudrais juste vous dire que l'Université de Montpellier, qui est une des plus vieilles, la plus vieille d'ailleurs, université de médecine en Europe, si elle a été si féconde, c'est grâce à l'interculturalité et au plurilinguisme. Parce que figurez-vous que les médecins chrétiens n'avaient pas le droit d'ouvrir les corps, hein, et donc les médecins arabes le pouvaient. Donc les médecins venaient du monde arabe, venaient de l'Espagne, venaient de l'Italie. Et alors, ce qui est très intéressant si vous visitez Montpellier, c'est que l'université de médecine est collée à la cathédrale Saint-Pierre. Donc, quand il y avait des corps qui n'étaient pas identifiés, on les passait à l'université de médecine. Il y a un tunnel, en fait, hein, qu'on peut visiter. Les médecins arabes et musulmans pouvaient ouvrir les corps et les autres médecins, chrétiens ou autres, pouvaient apprendre aussi. Donc, vous voyez tout l'intérêt, finalement, de l'interculturel. Alors, moi, c'est un peu un cadre général dans lequel je m'inscris à l'interculturalité, dans le sens où, finalement, si on le voit en termes de fécondité et d'intérêt. Alors, je ne dis pas que c'est simple, parce que l'interculturalité entraîne aussi souvent énormément de malentendus, c'est-à-dire on n'a pas la même expérience de l'école en tant qu'élève, donc on ne connaît pas forcément les attentes du nouveau système éducatif. Et c'est la même chose avec les langues. Tout à l'heure, on parlera de transfert. Alors, évidemment, quand on connaît des langues, il y a des phonèmes ou des éléments du lexique ou de la syntaxe qui vont se transférer, mais évidemment, ça va aussi se télescoper, c'est-à-dire qu'à d'autres moments, il y a des phonèmes qui n'existent pas dans les langues qu'on connaît, donc il faut réapprendre des choses. Mais j'ai envie de dire, c'est notre condition d'être humain, hein, c'est la raison pour laquelle là je vous montre une photographie d'Edgar Morin, parce que c'est le parrain de notre laboratoire, hein, l'humain. Donc l'humain, c'est un acronyme pour dire qu'on s'intéresse au langage, aux humanités, à la question de la médiation, hein, on en reparlera aujourd'hui, des apprentissages, de l'interaction et aussi du numérique, c'est au cœur des enjeux. Et en fait, si on a demandé à Edgar Morin d'être le parrain de notre laboratoire, c'est parce que ce qui nous intéresse, c'est la question de la pensée complexe. Aujourd'hui, ce que j'entends, et bon, ça aussi c'est l'actualité, notre formation, et j'ai envie de dire notre façon aussi cartésienne, hein, notre culture d'apprentissage et d'éducation, c'est qu'on est très souvent dans la binarité, c'est-à-dire on va s'intéresser au plurilinguisme comme une ressource, ou au contraire, on va considérer que c'est une problématique, voire un problème. Hein, donc on est toujours dans c'est bien, c'est mal, etc. Bon, en même temps, c'est aussi notre culture, hein, judéo-chrétienne. Et ce qui est intéressant dans la pensée d'Edgar Morin, c'est de dire ce qui serait intéressant à faire, c'est proposer de la reliance, proposer de la complexité, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai expliqué avec l'interculturalité, c'est ni bien ni mal, c'est que parfois il y a des phonèmes qui se transfèrent, parfois il y a des expériences culturelles qui vont être facilement transférables, et puis d'autres fois, il va y avoir un apprentissage. Quand on va au Canada, ce que j'expliquais tout à l'heure à Frédéric, toute erreur est tellement perçue comme quelque chose de positif, un tremplin de réflexion et d'apprentissage, que presque on va l'accueillir comme vite faites des erreurs, parce que voilà, ça va être intéressant pour les élèves et pour les enseignants. Or, nous, on n'a pas du tout cette culture d'enseignement et d'apprentissage. Et en même temps, ça peut mettre les élèves en insécurité, mais nous-mêmes aussi, hein, je me mets dans le lot, parce que moi, je suis aussi enseignante, hein, je forme des enseignants à l'université qui vont enseigner le FLE et le FLS en France et à l'étranger. Et parfois, j'ai des élèves qui viennent, des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Je vais aussi beaucoup dans les classes travailler de la primaire au lycée pro avec mes collègues enseignants, les directions d'école, etc. Et effectivement, parfois, il y a du malentendu, c'est difficile, c'est complexe, mais en même temps, c'est une occasion d'apprendre. Mais on voit bien aussi que il faut être assez sécurisé et être assez dans une zone de confort pour se dire voilà, je suis dans une situation de malentendu et je vais réfléchir à comment je peux relier les choses, comment je peux avancer, etc. Il faut comprendre que sur les représentations et les stéréotypes, là je fais un petit aussi retour sur l'interculturel, c'est que finalement, quand on a une représentation qui nous vient, qui est limitante, on se sent frustré, on n'a pas assez de temps, etc., c'est parce qu'on se sent en insécurité. C'est notre cerveau reptilien qui fonctionne à ce moment-là. Et c'est normal, on a une émotion, donc à ce moment-là, ça se fige et on n'a plus le cerveau cognitif qui va dire « je vais aller chercher des solutions, je vais lire, je vais demander à mes collègues, etc. etc. » Donc il y a une sorte de hiatus, là, il y a une compétition. C'est toujours le reptilien qui va gagner. C'est toujours lui, l'émotionnel, qui va prendre la main. Donc ça veut dire que oui, c'est vrai, c'est nécessaire de prendre du temps, de prendre du recul. Hein, et de dire, voilà, si à un moment donné, c'est complexe, eh bien, il faut avoir du temps pour discuter avec les collègues, pour... Alors, ce qui est très chouette, j'ai vu ça des salles de réunion à l'école primaire ou au collège au Canada, c'est qu'il y a un panneau en liège où il y a marqué « nos peurs », et puis on vient mettre, avec son petit post-it, les peurs qu'on a par rapport à telle problématique, et puis une fois par semaine, on en discute. Et ce temps-là, il est très précieux. Et puis ça veut dire qu'on ose parler de ses émotions. Et je pense que ça aussi, dans nos cultures éducatives, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors je reviens sur ces éléments qui pour moi me semblent primordiaux. C'est-à-dire que si on n'a pas conscience qu'on est des humains, moi c'est pour ça qu'on a appelé notre laboratoire l'humain, si on n'a pas conscience qu'on a aussi des émotions, qu'on vit avec notre reptilien, qu'on n'est pas que des professionnels très efficaces avec notre cerveau cognitif, etc. Donc là je reviens sur les travaux aussi dans des tricots qui est par ailleurs mon voisin de couloir. Donc on a l'habitude de discuter de ce genre de choses, eh bien, on peut se sentir rapidement dépassé. C'est une question de maîtrise. Mais on l'a dit tout à l'heure, nos prescrits, quand on nous parle de maîtrise de la langue, moi, en tant que linguiste, je ne sais pas ce que ça veut dire maîtrise de la langue. Pour moi, ce sont des compétences qu'on acquiert à l'oral, à l'écrit, en compréhension, en production, en monologal, en dialogal. Et c'est comme ça qu'on va entraîner les élèves à développer ces compétences et qu'on va aussi les évaluer. Donc, maîtrise de la langue, ça ne veut rien dire en réalité. D'ailleurs, j'ai bien analysé le prescrit avec d'autres collègues. On a bien vu qu'il n'y a pas une définition de ce que ça veut dire. Mais du coup, ça devient un fantasme. Et puis le côté maîtrise, donc il faut dompter l'animal, langagier. Donc voilà, il faut essayer de sortir de ça. L'objet est complexe et puis il faut vraiment travailler sur la reliance. Donc c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Ça me semble très important. Alors, quelles sont les problématiques et les défis, on vous en a parlé tout à l'heure en introduction, qu'on a, nous, les enseignants, les formateurs, les inspecteurs, donc la maîtrise de la langue. Alors, évidemment, ce diaporama, je vous l'enverrai ensuite. Et vous verrez qu'il y a énormément de liens vers des projets qu'on a pu mener. Donc, vous voyez, maîtrise de la langue, on a un projet européen qui s'appelle l'ISTIAC, c'est-à-dire sensibiliser les enseignants à utiliser les langues des élèves comme des ressources en classe ordinaire, quelles que soient les disciplines. Je vous montrerai des extraits tout à l'heure. Et puis, on a cette injonction, il faut que les élèves maîtrisent la langue. On a cette injonction, Enrique en a parlé tout à l'heure, sur les langues ou les langages des disciplines. Alors, moi, je parlerai plus de pratique langagière, parce que, bon, en sciences du langage, on a coutume de dire qu'il y a le langage, qui se constitue au travers des langues qu'on apprend. Et puis, au sein de chaque langue, il y a des pratiques langagières. D'accord ? Donc, les pratiques langagières qu'on va utiliser en famille, entre pairs, à l'oral, à l'écrit. Les pratiques langagières, par exemple, des mathématiques. Là, je travaille depuis quelques années avec des didacticiens des maths. Voilà, on parle de pratique langagière, c'est-à-dire qu'est-ce qui est spécifique à un moment donné, dans une discipline donnée ou dans une situation donnée ou selon l'interlocuteur. Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, vous verrez, il y a tout un tas de projets où on travaille sur les pratiques langagières des disciplines. Et puis, ce que vous disiez aussi sur, on demande à ce que les apprenants connaissent le langage du numérique, corporel, artistique, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que tous ces langages? Qu'est-ce que c'est que toutes ces pratiques langagières? Là, il est temps de relier. On est dans de la complexité. Donc, comment on va relier ça? Mais en fait, on s'aperçoit que l'institution, plutôt que relié. Mais alors, c'est pas, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Hein. Ce n'est pas pour être négatif et segmenté. C'est qu'il faut voir aussi que dans nos cultures éducatives, notamment en France, l'idée, c'est toujours de se spécialiser, d'être très performant. On a des enseignants qui sont très performants dans leur discipline. Ça, c'est évident, c'est incontestable, notamment dans le second degré où on est spécialiste de son domaine. Mais à côté de ça, sur la question des pratiques langagières de son domaine, c'est assez peu interrogé, par exemple. Hein. On est prof de maths, mais est-ce qu'on sait des droites parallèles 2 à 2, comment un élève apprend ça, comment ça fait sens pour lui, ben, c'est pas forcément interrogé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude, au contraire, de créer des dispositifs. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Donc, on va avoir la classe ordinaire, on va avoir, que mes étudiants disent souvent, classe normale. Hein, donc, ça veut dire, vous voyez, hein, dans l'inconscient collectif, où sont les autres classes? Des classes UPE2A, des sections européennes, des sections... on va avoir aussi des calendrettes, des bressols avec des langues régionales, etc. Donc, on va segmenter. Donc, l'idée, évidemment, moi, ce que je vais essayer de vous montrer avec cette histoire du diamant, c'est que ce serait intéressant de mettre en place un certain nombre de principes et aussi, qui va nous servir de grille d'analyse, on va faire les deux, quel que soit le dispositif, ça va fonctionner. Hein. Alors, juste pour vous dire que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place depuis une année un conseil supérieur des langues, où il y a un conseil des langues vivantes, un conseil des langues régionales, un conseil des langues anciennes. Mais l'idée aussi, c'est de créer des liens avec la maîtrise de la langue, donc avec le français. Et l'idée aussi, on essaie vraiment de travailler sur ça, les langues familiales parlées par les élèves, même si ce sont des langues orales, même si ce sont des langues qualifiées de dialectes, peu importe, ce sont des compétences. Donc, c'est très important. Et après, je ne vous parlerai pas, comme les Canadiens, de l'identité. Eux, ils disent que c'est important, l'identité de l'élève, etc., de la prendre en compte. Nous, c'est un mot qui, effectivement, dans l'institution, fait peur. Mais, par exemple, vous avez utilisé bien-être, on peut utiliser bienveillance, tout simplement reconnaissance de l'élève, l'école de la confiance. Bah, on y est, en fait. Hein, c'est avec d'autres mots qu'on peut aborder et qu'on peut, on peut s'en emparer sans avoir de crainte. Donc, peu importe. Hein, après, c'est l'histoire des théories, des pays et des cultures d'enseignement, d'apprentissage. Mais donc c'est l'idée de relier tout ça. Et puis, en plus, vous le savez aussi, ces demandes, finalement, elles sont paradoxales avec d'autres demandes. C'est qu'on nous demande à ce que les élèves y maîtrisent de plus en plus de langues vivantes. Hein, puisque depuis 2019, vous avez au moins deux langues. En plus des langues familiales, l'élève doit parler ces langues vivantes, doit être très compétent. Donc là, le ministère aussi s'inquiète beaucoup du niveau de langue sur PISA, langue vivante étrangère. Et en même temps, on a un paysage scolaire complètement multilingue. Où on ne valorise pas finalement, parce que je me dis aussi que si on voulait valoriser même sur PISA, alors c'est quelque chose qu'on a suggéré à Monsieur PISA il y a quelques temps, il y a 2 ans, en disant mais ce serait intéressant aussi d'évaluer les élèves sur d'autres compétences hein, qu'ils ont effectivement d'autres langues à parler, qu'ils ont pu apprendre en famille, lors de voyages, etc. Et on augmenterait facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Vous savez qu'actuellement, pour le grand oral du bac, les élèves peuvent à certains moments parler dans une autre langue. Donc ils peuvent présenter leur grand oral et ils peuvent utiliser une autre langue pour... Voilà, c'est valorisé. Mais dans l'Académie d'Aix-Marseille, où j'ai discuté de ça lors d'une... conférence de formation pour les professeurs de langue vivante, certains me disaient, mais certains grands jurys d'oraux ne sont pas encore très au courant. Et quand l'élève, finalement, utilise une langue familiale pour valoriser son grand oral en SES, en géopo, etc., des fois, certains disent, oui, mais finalement, c'est trop facile, il utilise une langue familiale. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va valoriser le fait que ça a été appris ou enseigné à l'école. Ce qui est vraiment dommage, parce que finalement, dans un parcours après professionnel et personnel, ce qui compte, c'est d'avoir des langues dans son répertoire, parce que ça servira toujours. Voilà, donc ça, c'est important. Pour vous donner un exemple familial, donc mon fils, il cherche ses options pour la seconde, il a encore quelques jours, et finalement, il me dit, bon, maman, je vais lâcher SES, je me sens pas à l'aise, etc. Je vais plutôt prendre anglais. Alors, en plus, on ne propose pas anglais civilisation, lui, il veut faire de l'histoire, on propose que anglais littérature dans son lycée. Je lui dis, t'es sûr que tu veux faire ça, Shakespeare, etc. Et puis, à la fin, il me dit, finalement, l'anglais, ça me servira toujours. Mais je lui dis, oui, c'est pas un mauvais calcul. C'est-à-dire que, les langues dans un répertoire, à un moment donné, ça a toujours une utilité quelque part. Hein. C'est aussi des choses qui vont faire écho à notre personnalité, à notre parcours, à notre trajectoire. Donc vous voyez, alors ça c'est quelque chose qu'on a développé aussi avec ma collègue, un défi richesse des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures. Bon, moi j'aime pas trop parler de richesse, hein, parce que qui dit richesse dit pauvreté, mais bon, l'éditeur, finalement les auteurs choisissent pas vraiment les titres de leurs livres, hein, pour tout vous dire. Donc si j'avais fait un titre avec complexité, peut-être ça aurait fait peur voilà, au lecteur. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que tout simplement, c'est des choses qui nous appartiennent en tant qu'humains. Donc voilà, il faut revenir. Je pense que quand on revient à cette base-là, on arrive vraiment à être beaucoup plus apaisé, hein, finalement, par rapport à ce qu'on fait. Alors, quelques rappels théoriques quand même au niveau de l'apprentissage. Hein. La question du répertoire langagier, ça je pense aussi, tout à l'heure vous en avez parlé, c'est que voilà, il y a beaucoup d'éléments, enfin beaucoup d'éléments théoriques, il n'y en a pas tant que ça finalement, hein, sur qu'est-ce que c'est une langue, qu'est-ce que c'est le langage, comment on apprend des langues, comment on peut s'entraîner à les apprendre, en milieu formel, informel, non formel, etc. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues, parce que ça c'est un peu de la formation générale. Et alors vous, évidemment, c'est pas la question, mais je pense que vous l'avez rappelé tout à l'heure, en formation initiale, il y a très peu de choses. Ça va dépendre. Nous, on avait fait une enquête sur l'interculturel dans des INSPE du sud de la France, mais j'ai des collègues qui sont en train de le faire pour le nord de la France et pour le plurilinguisme. C'est qu'en réalité, ça va dépendre des équipes pédagogiques et de certains modules dans les INSPE en formation initiale. Et s'il n'y a personne qui est sensibilisé à ces questions, voilà, il n'y aura pas grand-chose. Et sinon, il peut y avoir des modules de formation. Donc tout simplement pour vous dire que c'était une hypothèse des années 70. Donc vous voyez, c'est pas jeune, hein, ce que je vous raconte. Donc c'est pour ça que des fois, ça me fait rire quand on dit oh, « le plurilinguisme, c'est nouveau ». Non, non, mais c'est pas du tout nouveau. C'est vraiment des approches qui sont très anciennes, mais ça prend du temps après, évidemment, à être mobilisé sous forme de grilles de lecture, sous forme d'activités de classe, etc., etc. Et puis, Gumper, c'était pas forcément un didacticien, ni Kaminsky, un psychologue d'ailleurs. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces hypothèses qui ont été posées dans les années 70, maintenant, elles sont aussi validées par les imageries médicales. C'est-à-dire qu'on voit bien quand quelqu'un mobilise une langue, que quand il mobilise une autre langue, eh bien, finalement, il y a des connexions, parce qu'on sait que maintenant, on fonctionne avec des réseaux de neurones, qui vont faire qu'effectivement, il va y avoir interdépendance des langues. C'est pour ça que ce qui est le plus flagrant, c'est ce qu'on appelle l'accent, hein. Donc, on va entendre les traces d'autres langues quand on parle une langue. C'est pour ça que des fois, on parle du bilingue parfait, mais c'est un peu une hypocrisie. C'est-à-dire que le bilingue parfait, il ne se ferait pas reconnaître comme bilingue. C'est-à-dire que quand il parle une langue, on n'entend pas derrière qu'il y a d'autres langues. Ce n'est pas du tout ça, en fait, le plurilinguisme. Peu importe. Hein, finalement, peu importe s'il y a des traces des autres langues, j'ai envie de dire le plurinormalisme. Alors, qu'est-ce que c'est le plurinormalisme? C'est le fait de parler, par exemple, français et d'avoir d'autres normes du français qui sont derrière. Par exemple, moi, si j'appelle ma grand-mère d'origine picarde, etc., mon mari me dit tout de suite « Ah ben, tu téléphones à mamie ». Ben oui, parce qu'en fait, je vais reprendre, vous voyez, hein, je vais reprendre effectivement la norme. Et des fois, effectivement, les normes se télescopent. C'est-à-dire que quand on se trouve dans une situation où on va entendre quelqu'un, vous le savez, si vous êtes allé en Belgique, en Suisse, etc., très rapidement, en fait, hein, très souvent, c'est les neurones miroirs, hein, qui font ça. On va prendre l'accent, on va utiliser des belgicismes, etc., etc. Donc ça, c'est tout à fait logique et ordinaire, d'accord ? Donc, il ne faut pas se sentir mal à l'aise avec ce genre de choses. C'est que, alors, vraiment, en France, on est très précautionneux par rapport à la qualité de la langue qu'on va proposer à nos élèves. Ça, je l'ai vu aussi dans des thèses très récemment, où même dans le premier degré, beaucoup d'enseignants se disent « je suis soucieux de la qualité de la langue que je propose aux élèves ». Et il y a comme une sorte d'inconfort. Donc je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il y a ces différentes normes et de dire « voilà, là, dans ce contexte, à telle personne, comment j'adapte ?». Et en même temps, quand on commence à proposer ça aux élèves, nous, on a fait plein de, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer, hein, d'activités de ce type avec les élèves. Par exemple, « tu l'as vu à lui », quelque chose qu'on entend beaucoup à Montpellier, hein, qui vient en fait de l'occitan, mais qu'on va utiliser évidemment entre camarades, mais ensuite, dans une rédaction, on ne va pas utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Comment on va transformer, etc. En fait, les enfants, les jeunes adorent, quoi. Ils aiment manipuler le langage. En fait, le langage, c'est très ludique. Hein. Alors moi, je vois, vous voyez, je suis linguiste, mais je suis surtout en sciences du langage. Ce qui m'intéresse, c'est ce côté aussi, on manipule la langue, on joue avec la langue. Mais est-ce qu'on joue assez? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, quand on fait un travail de la langue, un travail de la langue, c'est le trépalium, hein, c'est un instrument de torture où on a les bras et les jambes écartés et chacun tire d'un côté. Donc c'est très agréable, hein, vous voyez, comme posture. Donc le travail de la langue, on ne voit pas le côté jouissif de la manipulation, etc. Et pourtant, c'est ce que je remarque depuis 20 ans sur les terrains. C'est-à-dire que quand on propose aux élèves de travailler sur... Alors, on l'a fait il y a très longtemps. Hein, j'ai pensé, quand vous avez présenté ce matin, aux travaux de Sylvie Plane sur l'observation réfléchie de la langue. C'était dans les programmes hein, au début des années 2000. Et c'était très intéressant, justement, de manipuler la langue. Quelle est la norme qui est attendue par rapport aux normes qui sont déjà connues? Alors, on dit, ah, mais non, les jeunes font trop de WhatsApp, trop de SMS. Du coup, l'orthographe, est écornée par ces pratiques. Mais en fait, tout simplement, il s'agit de faire l'adaptation. Et c'est drôle de faire l'adaptation. Moi, j'essaie de faire l'adaptation dans le sens inverse, parce que quand mes enfants reçoivent mes messages, tout rédigé en fait, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui a appris sans ni internet, enfin voilà, quand je dis ça même à mes étudiants, ils disent quel vieux dinosaure, j'ai fait ma thèse, il n'y avait pas internet, enfin il n'y avait pas le téléphone portable, mais c'est intéressant justement de, voilà, alors est-ce qu'on le prend, toujours pareil, est-ce qu'on le prend comme quelque chose qui est fécond et qui suscite de l'intérêt, ou alors est-ce qu'on va dire, ah ben non, c'est la déliquescence de la langue, etc., qu'on entend depuis le 13e siècle, qu'on entend depuis Vaugelas, mais qui en réalité, voilà, est juste une crainte, hein, c'est la crise de l'enseignement de la langue, mais en réalité, c'est pas du tout la vie des langues. Donc moi, évidemment, vous pouvez me dire bon ben oui, moi ça me concerne peut-être moins que vous, mais c'est pas vraiment la réalité parce qu'à l'université, nos étudiants aussi demandent de la norme. Hein. Ils veulent de la norme parce qu'ils vont enseigner le français langue étrangère ou langue seconde. Donc ils la veulent. Mais nous, toute notre idée, c'est d'aller de ces écarts qui sont pas négatifs à la norme, mais aussi d'en avoir conscience. Hein, encore une fois, un exemple familial, mon fils qui revient avec sa première dissertation en seconde, là, au mois de novembre, et qui me dit « Maman, pourquoi j'ai un triangle avec un point d'exclamation oral ?» Bah, je lui dis, bah, probablement, il y a des marques de l'oral dans ta dissertation. Il me dit, mais comment ça? Et puis, en fait, j'ai vu qu'il a écrit petit 1, petit 2. Je lui dis, non, mais ça... Il me dit, bah, et c'est bien comme ça que j'ai fait pour le brevet et j'ai eu une très bonne note. Eh oui, mais d'accord. Mais l'oral n'est pas l'écrit. Donc, quelles sont les structures syntaxiques qui sont attendues à l'écrit et quelles sont les structures syntaxiques qui sont attendues à l'oral? Il me dit, mais pourquoi mon prof ne me l'a pas dit? Bah, pour lui, ça tombe sous le sens. Pourquoi? Parce qu'on l'a naturalisé. Alors qu'en fait, c'est culturalisé, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant avec l'interculturel, c'est que l'interculturel, c'est un indice. C'est un indice que c'est naturalisé alors qu'en fait, c'est culturalisé et que pour l'élève, c'est pas encore devenu une expérience qu'il a intégrée, qu'il s'est appropriée. Donc, il faut le voir comme un indice, voilà. En fait, bon, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré Edgar Morin il y a une vingtaine d'années, voilà, et j'ai lu toute sa théorie à un moment donné pour un certain nombre de choses que je devais faire. Et en fait, ça m'a ouvert des pans. Je pense que si je n'avais pas lu tout ça, j'en serais encore à dire « Ah oui, c'est bien, c'est pas bien, il faut faire, il faut pas faire. » Mais là, c'est un peu une révolution copernicienne. Et en même temps, on accepte tout à fait qu'il y ait de la binarité. Hein, c'est pas... Voilà. Alors, autre chose hein, sur les enjeux théoriques... Peut-être. Alors, si jamais vous connaissez tout ça, vous dites on passe, vous me faites des signes, hein, parce que moi, je peux faire plein de choses différentes et axées dans différents côtés de la théorie et de la pratique. Donc, le double iceberg de Cummins, je vous le présente. Donc, en fait, tout simplement, encore la théorie des années 70-80. Donc, il y a interdépendance des langues, mais j'ai envie de dire aussi des expériences culturelles. Donc, par exemple, vous avez le « u » dans votre système phonologique, c'est sous l'iceberg. Donc, vous allez l'utiliser en langue 1, par exemple, en finnois, il y a le « u ». Vous devez apprendre le français, langue de scolarisation. Pas de problème avec le « u », parce que vous allez aller le pêcher hein, sous le niveau de la mer. Malheureusement, le « u », comme dans la plupart des langues, n'existe pas dans les langues que vous connaissez, par exemple en arabe, etc. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire en langue 2? Ben, déjà, vous n'allez pas l'entendre, première chose, hein, ou vous n'allez pas le comprendre. Et puis, vous allez prononcer ou, vous allez prononcer le phonème qui, généralement, est le plus proche. D'accord? Donc là, c'est un indice pour l'enseignant de faire de la différenciation pédagogique. Il n'a pas besoin du tout de connaître toutes les langues, mais de se dire, voilà, il prononce ou, donc, C'est que ça ne doit pas exister dans les langues qu'il connaît. Parce que franchement, les élèves, de ce que je vois, ont souvent des très vastes répertoires. Hein. Par exemple, à Montpellier, on a énormément d'élèves qui arrivent du Maroc, qui sont passés par l'Espagne, l'Italie. En Espagne, ils ont appris le catalan, le castillan. Ensuite, ils arrivent en France. C'est formidable pour nous parce qu'ils ont déjà deux langues romanes. Ils connaissent peut-être aussi le berbère ou le rifin, plus l'arabe. Donc voilà, c'est des élèves qui vont exceller. Tout à l'heure, j'en parlerai dans une facette du diamant, qui vont excellent en langue vivante espagnole, donc ce serait bien que l'enseignant il mutualise ses compétences avec l'élève et que l'élève puisse aussi être un assistant de l'enseignant et qu'à un certain moment l'élève allophone il puisse briller hein, dans d'autres domaines. On avait des élèves syriens aussi très très forts en anglais et en maths parce qu'en fait le programme était plus avancé. Donc vous voyez, ça c'est intéressant. Même chose, on avait des élèves albanophones, mais Madame Auger, pourquoi ils disent les bateaux de jeu, les chapeaux de jeu? Je ne sais pas, quand ils l'ont dit deux, trois fois, ça veut dire que sûrement le X se prononce je en albanais. Hein. Il n'y a pas à chercher plus loin que ça, hein, d'accord? Donc, il ne faut pas s'inquiéter, vous voyez. C'est ça l'interculturel, hein, c'est ça la décentration. Une erreur, clac, ça veut dire qu'en fait, ça n'existe pas. Donc, cet iceberg, moi, je trouve que c'est un modèle qui est intéressant parce que ça nous fait bien comprendre comment on peut réagir. Et c'est valable aussi pour les normes et les expériences langagières. Hein. Mon fils, vous voyez, il avait dans sa norme orale 1, 2, 3, 4. Et donc, quand il est passé à la norme écrite, bah, il a fait 1, 2, 3, 4. Sauf que ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut une adaptation. D'accord ? Donc, on a beau leur dire, mais non, mais ce n'est pas grave. Oui, mais comme c'était une évaluation sommative, c'est une anxiété, en fait. Donc, c'est ça qui est... Désolée, hein, j'adore prendre mes enfants comme corpus, mais bon, c'est tellement... Moi, ce que j'aime, c'est que les théories illustrent la réalité. Vous voyez, si ça illustre pas la réalité, si ça me parle pas, je n'utilise pas ces théories. Donc, même chose avec les expériences culturelles. Hein. Des élèves qui vont avoir l'habitude de se lever quand ils prennent la parole, eh ben, ils vont le faire naturellement en classe. Et puis, quand ils vont voir que l'enseignant se pose des questions et que tous les autres élèves les regardent bizarrement, eh ben, il va y avoir une adaptation, etc. Mais au lieu de dire, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, on rit, et on se moque de dire « Ah, mais c'est intéressant, en fait, il y a plein de façons différentes d'agir, de coagir, d'apprendre, etc. Il n'y en a pas une mieux que les autres, c'est-à-dire c'est des constellations. » Donc, c'est ça qui est intéressant. Cette définition du plurilinguisme et du pluriculturalisme, vous la trouvez dès 2001 dans le CECR. Hein. Malheureusement, comme le regrettait lui-même un des concepteurs, Daniel Coste, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'activités qui ont été proposées après pour la prise en compte hein, du plurilinguisme et du pluriculturalisme dans la salle de classe et de traiter ce répertoire comme un seul répertoire. C'est ce que je viens de vous expliquer, en fait. Hein. Un autre schéma que j'aime beaucoup, et ça rejoint un peu les schémas que vous avez montrés tout à l'heure, qu'on trouve sur la plateforme du Conseil de l'Europe sur l'éducation plurilingue et interculturelle. D'ailleurs, je dis au passage que l'an dernier, le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe, donc notre ministère hein, de l'éducation, a signé une recommandation pour mettre en place une éducation plurilingue et interculturelle à l'école de la République. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Mais c'est déjà un grand pas, parce que ça veut dire qu'on a ce document institutionnel. Là, je ne suis pas revenue, mais c'est le premier chapitre de notre ouvrage avec ma collègue Emmanuelle Le Pichon, où on a travaillé sur le droit. En fait, normalement, voilà, le droit international, c'est d'avoir une éducation dans une langue avec laquelle on se sent à l'aise. Donc voilà, éducation plurilingue et interculturelle, c'est aussi l'ONU, c'est aussi l'UNESCO, c'est aussi l'UNICEF. Donc c'est un droit, en fait, hein. Et des fois, j'ai encore des étudiants qui me disent « Ah non, mais là, moi, j'ai fait un stage, mais en fait, on nous dit « N'utilisez pas les langues ». J'ai dit « Ben voilà, vous êtes stagiaire, donc vous n'allez pas venir avec voilà, la déclaration de l'UNESCO, mais ben là, on est hors cadre, en fait hein. ». Bon, mais c'est bien aussi d'avoir les fondements du droit. Je trouve que c'est intéressant. Alors, ce que j'aime bien dans ce schéma, c'est qu'effectivement, on a la langue ou les langues de scolarisation, vous en avez parlé tout à l'heure, mais vous voyez que c'est mis en lien avec les langues vivantes étrangères, les langues anciennes, les langues parlées à la maison, qu'elles soient régionales, de la migration, etc. Et que même dans les matières, ça je vous le montrerai tout à l'heure, en maths, en histoire-géo, etc., on peut solliciter d'autres langues, ça peut être intéressant. Et vous voyez que ça, on le propose aux élites. On le propose en section euro, par exemple, où on va faire de l'histoire géo en anglais, etc. Et s'il y a une sélection pour rentrer en euro. Alors que pour les élèves allophones, on va dire que c'est un problème, alors que pour les élites, ce n'est pas un problème. Alors, donc, ce schéma, je trouve qu'il nous aide à penser la reliance entre les langues et de dire, vous verrez tout à l'heure, je vous en parlerai dans le projet Listiac, hein, des enseignements sensibles aux langues dans toutes les matières, c'est l'idée que ce n'est pas uniquement pour le prof de français ou pour le prof du PE2A, c'est vraiment pour tous les enseignants, en fait. Si vous voulez m'interrompre à tout moment, il n'y a aucun souci, hein, n'hésitez pas. Conséquences didactiques et pédagogiques, eh bien effectivement, ce serait qu'on n'aborde pas de manière isolée les langues et les normes, parce que pour moi, les normes, ça fait exactement partie de la même famille de problématiques, hein, donc l'oral, l'écrit en français. Et vous voyez que demain, il y a aussi une conférence à Canopée sur les élèves allophones à Montpellier, et je vais faire une intervention sur « mais est-ce que ces élèves, ils sont si différents ?» Mais en fait, quand on s'intéresse aux problématiques de langue, langage et apprentissage des langues et pratiques langagières dans les disciplines, on a parlé de REP+, c'est que ça intéresse tous nos élèves, même les élèves qui sont que francophones, parce qu'ils peuvent aussi avoir des difficultés avec le français, langue de scolarisation. Donc quand on, voilà, c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour désegmenter les formations ou les désolidariser, parce qu'en fait, ce qu'on sait sur les langues, le langage, l'interculturel, etc., c'est pour tous les élèves en réalité. Donc, bon, moi, c'est un peu l'histoire de ma trajectoire où on m'a catégorisé des fois aussi. Bon, ben, c'est Nathalie Auger, c'est Madame Migrant, c'est Madame Gitan, hein, c'est Madame Rome. Mais en réalité, plus ça va et plus je me dis non. En réalité, nous, on travaille sur le français et sur l'appropriation du français langue de scolarisation. Donc, peu importe, les principes sont les mêmes, en fait. Donc ça doit aussi sécuriser en formation. Vous voyez, tout à l'heure, vous parliez d'insécurité. Ça doit sécuriser de dire, mais tout ce que vous savez là, ça va servir aussi à vos élèves francophones. Donc, voilà, il faut pas s'inquiéter de ce genre de choses. Alors, je vais vous présenter maintenant le diamant comme une... Ah, j'aime bien la petite animation, là, c'est le moment. Alors, je remercie l'équipe vidéo de mon université. Ils ont dû dire, qu'est-ce qu'elle a, Madame Auger, là, avec ses modèles bizarres. Donc le diamant langagier, en fait, tout simplement, hein, c'est, vous allez voir, mais ça, c'est grâce à mes collègues de l'IFE que je me suis dit, non seulement c'est un outil, mais finalement, c'est aussi une grille de lecture. Donc, merci à vous. Hein, c'est grâce à la co-construction qu'on arrive à voir les choses d'une autre manière. Donc, je vous le montre en version plate. Vous allez voir, version plane. Donc, en fait, il y a plusieurs facettes à ce diamant. Et il fonctionne pour les élèves allophones, pour le plurilinguisme en classe ordinaire, mais vous allez voir aussi que ça marche avec le plurinormalisme, avec les normes, hein, d'accord ? Et ça fonctionne aussi très, très bien pour les élèves francophones. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'il y a plusieurs facettes. C'est pas forcément à prendre dans cet ordre-là, sauf peut-être la facette 1, dont vous avez déjà parlé tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire qu'il est important quand même d'identifier les langues et les normes des élèves, hein, et de mettre en valeur ce répertoire. Donc ça, c'est vraiment la première chose à voir. C'est-à-dire que si on ne connaît pas les langues de nos élèves, alors là, ça va être quand même très, très difficile de... ou si on voilà, on n'a pas le temps de s'y intéresser, etc., ça va être quand même difficile à un moment donné de les mobiliser. Hein, c'est-à-dire quel matériel je vais aller chercher, qui je peux mobiliser dans mon établissement qui parle telle ou telle langue, etc., etc. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Hein. J'ai un collègue à l'université de Fribourg, Alexandre Duchesne. Lui, il travaille sur le milieu privé et sur le plurilinguisme. Et on discutait de nos affaires. Et il me dit, mais tu sais, à l'aéroport de Genève, c'est tout le contraire de l'histoire du diamant langagier. C'est qu'eux, ils font tout pour valoriser le plurilinguisme. Pourquoi ? Parce que s'il y a une langue qui n'est pas parlée à l'aéroport, ça peut leur coûter des milliers d'euros. Il y a quelqu'un qui arrive en Swahili, qui a un problème avec son avion, personne ne parle Swahili, on ne peut pas l'aider pour changer son billet ou pour savoir comment le remettre sur une correspondance, et donc c'est des milliers d'euros de perdus. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Quand on embauche quelqu'un, on prend, alors n'importe qui, hein, quelqu'un qui va faire le ménage, qui va s'occuper de qui est bagagiste, etc., etc., on va embaucher en priorité des langues qui ne sont pas parlées dans l'aéroport. Et on fait un répertoire des langues. Et on sait que si on a un problème avec quelqu'un qui parle Igbo, par exemple, on va aller chercher la personne, le bagagiste, voilà. Donc, il part, il sort de son poste, il va enfiler une veste et une casquette. Il va arriver, il va faire le traducteur Igbo. Alors, comme il peut, parce qu'il n'est pas spécialiste, mais ça suffira très bien pour se remettre sur une correspondance et ne pas perdre des milliers d'euros. On fonctionne de cette manière-là. Et moi, je me dis, ce serait très intéressant de fonctionner de cette manière-là aussi, dans les établissements. C'est-à-dire de savoir, ah ben tiens, moi, je l'ai vu là dans un collège dernièrement, ah ben tiens, j'ai tel prof d'allemand qui vient d'arriver, mais en fait, elle est née en Pologne et elle parle aussi polonais. Ben voilà, on l'inscrit sur le répertoire. Et ce n'est pas pour faire de la délation, c'est pour dire, on a une ressource là. Et à tout moment, ça peut nous être utile. Il y a un élève qui a un problème de santé, on a un problème de médiation avec les parents, etc., etc. Donc, mais on n'a pas ce répertoire. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant. Une autre facette, c'est ensuite, on va le voir, c'est un petit peu plus technique. On va dire que là, on est plus dans l'ordre des gestes professionnels. Comment utiliser ces langues comme une ressource d'enseignement et d'apprentissage? Donc là, on verra, il y a deux familles d'activités et avec des exemples. Ensuite, on va voir aussi qu'il est important d'utiliser des ressources dans différentes langues, hein, et différentes expériences culturelles, donc des ouvrages, de la littérature de jeunesse, des manuels, etc. Donc ça, on en parlera aussi. De mettre en place des tutorats mutuels, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'élève allophone qui doit être aidé par d'autres élèves allophones qui parlent la même langue, etc., mais l'élève allophone qui a aussi l'occasion de briller, hein. C'est pour ça que j'ai pris aussi l'image du diamant à un moment donné, hein. C'est qu'on on taille son diamant et voilà, de plus en plus c'est vertueux et voilà, c'est un peu un trésor sur lequel on est assis, qui est brut, un diamant brut pour le moment, et que petit à petit on taille au fil des activités, donc c'était un petit peu ça l'idée de la métaphore. Et donc ces élèves syriens qui sont plus avancés en maths, qui vont aider d'autres élèves en maths ou en anglais ou en langue vivante, enfin, ou en art plastique, où c'est toujours très très intéressant. De ne pas hésiter non plus à sortir de la classe et à utiliser d'autres environnements, hein, culturels. Donc on a travaillé avec des musées, on a travaillé avec des médiathèques. Voilà, ça peut être des choses qui sont très intéressantes à faire. Donc je vous montrerai des exemples tout à l'heure. D'inclure les parents. Ça semble aussi indispensable. Vous avez tout à l'heure parlé des parents ressources, hein, et puis on verra aussi que même des parents qui sont pas forcément francophones, qui sont pas forcément qui n'écrivent pas, hein, pas même leur langue familiale, eh bien peuvent tout à fait être ressources et être inclus et peuvent devenir aussi des soutiens forts, hein, donc le livre sur la coéducation par exemple. Que vous avez fait dernièrement, donc là c'est très important. Et puis cette facette, hein, pour moi c'est le côté vert, hein, c'est donc la base du diamant, c'est de sensibiliser tous les personnels, c'est-à-dire que c'est pas uniquement l'apanage des enseignants, mais évidemment des formateurs de formateurs, des directions d'école, des principaux, des CPE, des infirmiers, etc. Et que c'est important que tout le monde soit sensibilisé à ça, d'accord. Et je mets vraiment dans la, enfin je relis aussi avec les langues vivantes étrangères. Tous nos élèves finalement sont plurilingues en quelque sorte parce que ils apprennent des langues vivantes à l'école. Donc il n'y a personne en fait qui est monolingue. Alors j'étais très fière quand mon fils l'année dernière en troisième, après son test Evalangue, bon il a eu B, etc. Enfin bon, c'était dans la moyenne, mais il me dit ah t'as vu, j'ai eu un résultat B, donc maintenant je suis bilingue. Alors ça m'a fait un peu sourire parce que je me suis dit bon, il n'est quand même pas bilingue, hein. Si on l'envoie dans une école américaine, il risque d'être perdu. Également, mais je me suis dit c'est intéressant du point de vue des représentations parce que ça veut dire qu'il se vit comme quelqu'un qui est en compétence ou au moins qui peut interagir avec un locuteur d'une autre langue, et c'est ça en fait qui compte, hein, c'est vrai, et c'est ça le plurilinguisme. C'est pour ça que nous, voilà, quand en 2012 est sorti Allophonie, c'est pas forcément, j'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus, hein, dans la revue Tranel, c'est pas forcément le terme qu'on aurait préféré, hein, parce que c'est toujours autre langue, bon, autre c'est bien l'altérité, mais à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est d'être ensemble, quoi. Donc, plurilinguisme, par contre, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est dans cette situation, nous les adultes, les enfants, etc. Donc c'est ça. Est-ce qu'on est si différents? C'est aussi ce que je vais dire demain. Bah, c'est intéressant aussi de, voilà, à un moment donné, de voir les liens, de voir les points communs, et pour tout le monde, apprendre une langue, apprendre la langue de scolarisation, des langues vivantes, etc. C'est la même problématique, en fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. Donc vous voyez, comment ça peut être une grille, ce diamant? Bah, la première question à se poser, c'est finalement quelle langue et quelles normes dans notre classe, dans notre école, dans notre environnement aussi, hein, donc dans notre quartier, dans notre région. Donc voilà, ça c'est très 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 important. Alors il y a des activités qu'on peut faire pour s'en emparer. Alors là, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà, vous allez me dire. Donc il y a des activités qu'on appelle biographie langagière ou alors collecte de langue. Donc vous voyez là, c'est ma collègue Gail Prasad qui a travaillé au Canada et puis avec moi aussi à Montpellier, qui demande aux élèves d'apporter des photos ou des objets, hein, dans diverses langues de la maison. Et puis, qu'est-ce qu'on voit à l'école? Et puis, on s'aperçoit que finalement, des fois, il n'y a pas beaucoup de points d'intersection. Donc, l'interculturel, hein, le plurilinguisme, il est au milieu. Donc, produire des affichages multilingues avec des élèves. Là, c'était très intéressant sur un projet Binogi Escape sur enseigner les sciences au travers du plurilinguisme. On a fait des posters, par exemple, sur le cycle de l'eau, sur l'œil, sur le système solaire, où effectivement, on a proposé ça en français, la langue de scolarisation, mais aussi tout le lexique. Hein. On a proposé le lexique dans les différentes langues de la classe. Et puis, des fois, il y avait des élèves, leur langue n'était pas représentée. Bah, c'est pas grave, on a ajouté des listes avec des post-it et on a pu le traduire et on a fait des affichages pour la salle de classe. Vous voyez ? Donc, si vous connaissez aussi le site de Doulala Lexilala, on peut faire des posters aussi hein, dans les langues des élèves. Donc encore une fois, ce n'est pas à l'enseignant, ça ne doit pas être du temps supplémentaire. C'est des activités de production qu'on fait avec les élèves hein, et justement qui permettent de mieux appréhender la langue de scolarisation ou les pratiques langagières d'une discipline, etc., etc. Alors le très classique, la biographie langagière, est-ce que je vous en parle ou pas ? Parce que peut-être c'est du connu, reconnu... Oui, alors je vais vous en dire quelques mots. En fait, la biographie langagière, c'est tout simplement faire une activité avec l'élève pour savoir les langues qu'il connaît. Alors, c'est beaucoup plus, si vous voulez, informel et beaucoup moins stressant finalement que quand il y a une entrevue avec la psychologue de... Comment on dit maintenant ? Ciscol ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou alors au CASNAV, quand on accueille les familles, etc. Hein, des fois, les familles nous disent « Qu'est-ce que vous parlez comme langue familiale ?» Ben, on parle français. Hein, on veut faire plaisir. Donc, et on n'ose pas dire qu'on parle le rifin parce que le rifin, finalement, est-ce que c'est une langue qui est reconnue ? Donc, voilà. La biographie langagière, généralement, ça permet d'avoir des informations sur les langues que connaissent les élèves. Alors, il y a différentes façons de faire. Hein. Donc, par exemple, on propose aux élèves de se dessiner ou on prend une photo. On demande aux élèves de prendre des couleurs et de colorier des parties du corps qui représentent des langues et on leur demande de dire pourquoi ils ont choisi telle et telle couleur. Donc c'est très intéressant parce qu'on a des élèves qui vont dire, la première élève qui va dire, bah, moi j'ai coloré en vert mes mains parce que c'est le vert c'est la couleur de la nature et c'est aussi finalement une couleur qu'on retrouve sur le drapeau du Maroc et je fais beaucoup de choses avec ces langues, donc j'ai choisi les mains. Mais j'ai choisi le bleu pour le français, hein, pour la tête et puis le ventre. Donc, vous voyez qu'on révise les parties du corps. Donc, vous pouvez l'adapter à tous les niveaux, en fait. Hein. Ça, c'est des choses que moi, je fais faire des fois aux étudiants à l'université. Mais évidemment, pour un niveau A1.1, on peut le faire. Hein. D'ailleurs, là, on va sortir un cahier pour les élèves au collège chez Atier Didier. Et la première séquence, on demande aux élèves de faire une biographie langagière. Donc, on révise les parties du corps, on révise les couleurs. Et pourquoi ? Parce que. Et puis, tout simplement, on arrive à avoir des informations. Donc, l'élève qui nous dit, en bleu, j'ai mis le français en bleu parce que, des fois, ça me fait mal à la tête hein, d'apprendre à parler français. Et puis, des fois, ça me fait mal aussi un peu au ventre. Donc, on voit qu'il y a encore de l'anxiété. Et ce qui est intéressant, c'est que cette biographie, vous pouvez la faire plusieurs fois dans l'année. Vous pouvez la faire avec en art plastique, vous pouvez la faire en histoire géo, on a fait le portrait de Néron, on peut faire aussi son portrait, donc on travaille par exemple sur l'acte de parole, se présenter, faire un portrait en français, donc vous voyez, il y a plein de façons de faire la biographie langagière, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site... Maldives aussi, vous cliquerez et vous avez plein d'exemples où on peut utiliser aussi la métaphore de l'arbre ou de la fleur. Ou voilà. Et là, je vais vous montrer aussi qu'on peut faire une biographie langagière à l'échelle d'un établissement. Donc, c'est ce qu'on a fait pour le projet Listiac dans une école primaire. Et je vais vous passer quelques minutes de vidéo. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est que même les menuisiers de la mairie, qui ont fabriqué l'arbre, hein, les élèves ont fabriqué les feuilles, mais eux, ils ont fabriqué l'arbre, ils ont mis aussi les langues qu'ils connaissaient. Les menuisiers de la mairie aussi, ils connaissaient un certain nombre de langues. Donc, vous voyez, il faut aussi que les langues, ça devienne quelque chose où on est à l'aise avec ça, d'accord ? C'est pas... On comprend hein, toute l'idéologie qu'il y a derrière, etc. On est encore assez précautionneux et c'est tout à fait normal, mais en même temps, à un moment donné, ça fait aussi partie de ce qu'on est. Hein, et l'être humain, c'est ça, la seule différence qu'on a avec les animaux, c'est le langage quand même. D'accord ? Donc ça, il faut bien le retenir. Je vous passe quelques éléments. Puis après, je vais avancer parce que sinon... Donc vous verrez qu'on a fait aussi un arbre des valeurs avec les valeurs de l'école dans différentes langues. Voilà. Et on a pu parler de ça avec les élèves à l'école maternelle, un peu comme des ateliers philo. Donc ça, c'était intéressant aussi.
Qu'est-ce qui fait que notre école est particulière ? Pourquoi ça marche dans cette école ? Et on s'est dit, il y a des valeurs. Donc on a posé les valeurs et forcément le plurilinguisme est venu naturellement. naturellement. On se dit, mais pourquoi on va le mettre qu'en français? On va le mettre dans toutes les langues. Il faut que ça s'adresse à qui? Aux parents. Il faut qu'ils puissent comprendre les parents, ce qu'on met. Il faut que ça puisse marquer.
Et puis, une des valeurs était l'inclusion. Et donc, c'était évident de le mettre dans les langues des familles de l'école.
On va poser la question, savoir comment on pourrait faire pour représenter les langues. Donc on est parti sur des feuilles, les couleurs, comment les formaliser, même si je suis arrivé dans le projet en leur disant, voilà, le code couleur, ça sera ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Ça vient de mes élèves. Il faut que ça vienne d'eux. Pour les représentations, je les ai laissés libres. C'est-à-dire qu'ils avaient une feuille, ils avaient un code couleur qui était établi, et libre à eux de représenter. Et donc ce qui était assez intéressant, donc, voilà, quand on voit à peu près les feuilles, c'est qu'ils ont assez bien respecté, même sacrément bien respecté, la proportion des langues. Voilà, et c'est la réalité.
Oui.
C'est la réalité de leur langue.
Oui, oui. Voilà.
C'est un tout.
Oui.
C'est notre identité, c'est ce qu'on fait.
Oui, oui.
Je ne suis pas que français. Oui. J'ai des origines espagnoles, j'ai des origines italiennes. Oui. Est-ce que ça fait de moi pour autant quelqu'un qui est moins français? Oui. Non.
Voilà, alors je vous laisserai voir tout le film. Hein. Il y a énormément de vidéos, de la maternelle jusqu'au lycée, lycée pro, sur le site Listiac, où je vous ai mis le lien. Donc voilà, je vais passer à la facette suivante. Hein. Désolée, mais je vois que le temps avance, il faudra bien qu'on aille déjeuner. Donc il y a, pour utiliser donc, la deuxième facette, une fois qu'on a identifié les langues d'une manière ou d'une autre, avec des activités, etc., ça c'est très important, eh bien effectivement, ce qui est important, c'est de les mobiliser comme des ressources. Ça, c'est une autre facette. Hein. Et donc, il y a deux familles d'activités. C'est-à-dire que quand on est pris au dépourvu, parce qu'un élève ne comprend pas, etc., il faut qu'on trouve très rapidement des moyens de traduction. Avec le téléphone, avec les dictionnaires, avec un élève qui pourra parler, avec un autre adulte, etc. Ça, c'est très important. D'accord ? Et puis, il y a une autre famille que nous, on a beaucoup développée en Europe, qui s'appelle la réflexion sur les langues. Tout le côté méta, observation réfléchie des langues, etc. En fait, pour moi, ça fait pas très longtemps que j'ai réalisé que c'était deux familles, mais il n'y avait pas trop d'interaction. Ce qui est important, c'est de faire les deux en réalité. Hein. Quand on a un besoin immédiat, moi, c'est ce que j'appelle le plurilinguisme spontané. Donc, vite, on va trouver un moyen. Et puis sinon, l'autre côté de la réflexion, le côté méta, ce qu'on voit aussi dans l'éveil aux langues didactiques du plurilinguisme, c'est important. Par exemple, là, avec des élèves gitans, on travaille sur la description d'un tableau d'Archimboldo à l'école primaire. Et puis finalement... l'élève ne sait pas comment on dit châtaigne, et là l'enseignante demande aux autres, alors comment on dit castagna, châtaigne, vous voyez, c'est intéressant parce que finalement c'est proche et on va mieux retenir le mot. Il faut bien comprendre qu'on a une mémoire associative, donc dès qu'on va l'associer effectivement à quelque chose qu'on connaît, ce sera beaucoup plus simple de le mémoriser et de l'envoyer dans la mémoire à long terme. Donc faut pas hésiter, il y a beaucoup de contre-intuition, hein, de dire ah non mais on va les laisser dans leur langue familiale, donc ils vont pas apprendre le français, etc. Non, en fait, plus on crée des liens et des transferts, en fait, et plus on est rapide à associer et plus on va passer vers une autre langue. Ça, les travaux l'ont démontré aussi. Mais vous voyez que sur nos représentations, on a beaucoup aussi de représentations qui sont contre-intuitives. Ce qu'on fait beaucoup aussi, les Nord-Américains, c'est... Alors là, je vous ai parlé de l'oral, hein, donc là, on traduit à l'oral. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'écrit, de ce qu'ils appellent « identity text ». Moi, je n'ai pas du tout traduit « texte identitaire ». J'ai dit à Jim Cummins, je suis désolée, moi, je vais traduire par « texte plurilingue » parce que « texte identitaire », ça va faire peur aux gens. Hein. En fait, tout simplement, on écrit dans une langue avec laquelle on est à l'aise, et ensuite, on va pouvoir écrire en français, et donc on va pouvoir réfléchir au niveau lexical, au niveau syntaxique, etc., etc. Et on va se retrouver en réussite. On ne va pas attendre pour faire le portrait de Madame Bovary. Hein, est-ce qu'on apprend la langue d'abord et puis ensuite le contenu disciplinaire? Non, on va faire les deux en même temps. Mais pourquoi ne pas le faire déjà, hein, dans une langue qu'on connaît déjà? Alors là, je vais vous montrer ce qu'on fait, par exemple. J'avais un poème, un élève arabophone qui arrive en France, qui doit passer le bac très rapidement, donc c'est très compliqué effectivement, et on lui propose le poème en arabe de Baudelaire et ensuite en français, et c'est très intéressant parce que en fait l'élève va comprendre, donc après il va créer des points avec le français, mais pour les élèves francophones, très intéressant aussi parce que quand on apprend, on s'approprie le concept d'allitération, d'assonance, etc., qu'est-ce que c'est en français? Mais l'élève arabophone, il va pouvoir nous dire comment c'est traduit en arabe. Et du coup, ça fait mieux comprendre aussi à l'élève. Donc, vous voyez, ce n'est pas une perte de temps, en fait. C'est vraiment la mutualisation des compétences. Donc, c'est ça. Mais attention, parce que je vois aussi des dérives du plurilinguisme. Donc, maintenant, je fais un peu du plurilinguisme critique. C'est-à-dire que des fois, j'ai des collègues qui me disent « Ah ben, lui, il parle Yoruba, donc je lui ai demandé de faire le rapport scientifique en Yoruba et après, il pourra le traduire en français. » Non, mais il n'a jamais fait de rapport scientifique en Yoruba. Donc en fait, c'est un peu contre-productif, parce que là, on lui donne la double difficulté. Hein, parce que, est-ce qu'il a été scolarisé en Yoruba ou pas ? Est-ce que, voilà, si c'est le cas et qu'il a fait des sciences en Yoruba, aucun problème, il va être à l'aise à faire son rapport scientifique en Yoruba, on va pouvoir le traduire en français. Mais des fois, on part vraiment, vous voyez, c'est le tout plurilinguisme, mais après, il y a des dérives aussi, il faut faire attention à ça. Hein. Donc, encore une fois, moi, je dis toujours, dans les langues que vous connaissez, avec les langues avec lesquelles vous êtes à l'aise. Mais si vous voyez ce que j'ai écrit il y a 20 ans, quand j'ai fait Comparons nos langues, j'ai dit, et dans ta langue. Non, mais maintenant, je ne dirais plus ça. Je vais dire, et dans les langues que vous connaissez, d'accord ? Mais bon, il y a une maturation, c'est normal. Donc, vous voyez, est-ce qu'on est dans une idée, la langue est étrangère, je pars de zéro quand je rentre dans une langue, attention aux faux amis. C'est comme ça aussi hein, qu'on regarde à l'agrégation 4 points en moins pour les faux amis. Pour moi, ce sont des vrais amis, hein, d'accord ? Alors, je suis embarrassée, embarassada. Alors, c'est vrai que, évidemment, là, c'est un peu ennuyeux pour ceux qui ont compris la blague, hein, parce que ça veut dire être enceinte, en fait, en espagnol. Mais il y a bien ce côté que, pour ceux qui ont déjà été enceintes, oui, on peut effectivement être embarrassée parfois, hein, et très embarrassée. Donc, c'est pas complètement... Et en même temps, vous voyez, ça crée un hiatus. On rit, clax, vous allez le mettre dans la mémoire à long terme, et c'est terminé. Vous allez apprendre ce mot. Il faut oser le faire. Un autre exemple, anecdote familiale. Ma sœur part faire une formation en Espagne. Elle fait un cours de natation. Elle a une crampe. Et au lieu de dire, essayer de mettre un O et un A en disant, voilà, j'ai une crampe, elle se met à couler. Et là, le maître nageur lui dit, tiens, elle est sous la crampe. Alors là, elle dit, oui. Bah, il aurait mieux valu essayer de mettre un O ou un A, n'importe quel. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit à mon fils qui me dit, oh, maman, le vocabulaire en espagnol, c'est trop difficile. Je lui dis, quoi ? On a regardé sur Internet, presque plus de 70% de lexique commun. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu ne sais pas, tu mets un O ou un A. Oh non, mais maman, avec tes théories, soit plurilinguiste, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et puis un jour, on révise je ne sais quoi, et puis il y avait une image, mais il n'y avait pas le mot, et c'était le casque de chantier. Alors là, moi, je ne sais pas le dire. Hein. Alors, il me regarde, mon fils, d'un air quoi, il me dit, on essaye ta théorie, maman, on met casco ? Et puis on regarde dans le dictionnaire, bah oui, c'était ça. Donc vous voyez, il vaut mieux essayer que de ne pas essayer. Et puis si c'est pas ça, c'est pas grave, parce que ce sera un autre mot qu'on va rapprocher. Là, moi, je fais une initiation au hongrois à mes étudiants, et en fait, le seul mot qu'ils reconnaissent, c'est le mot qui ressemble à chocolat, en fait, chocolat. Et je sais plus ce que ça veut dire, d'ailleurs, bienvenue ou autre, enfin bref. Et là, ils le retiennent tous parce que ça ressemble à chocolat, bon, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand on comprend comment ça fonctionne, l'apprentissage des langues, ben franchement, ça enlève aussi un point. Ou alors, est-ce que je me dis, mais en fait, si je valorise les convergences, que je valorise l'intercompréhension, eh bien, effectivement, je vais pouvoir travailler sur un continuum. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on vous avait dit tout à l'heure sur l'intercompréhension des langues. On voit que quand on organise les langues, on se rend compte que c'est très facile. En une trentaine d'heures, on est capable d'avoir un niveau B en lecture dans les langues romanes. Moi, j'ai fait ce stage, c'est formidable. Et puis, on arrive à lire des textes voilà, courants. Donc, c'est quand même extraordinaire parce qu'il n'y a pas tant de... Et puis, je vous ai mis l'anglais, là. Vous voyez que... Voilà, en anglais, on a parlé, en Angleterre, on a parlé jusqu'au XIe siècle à la cour de Grande-Bretagne. Donc, il y a énormément le lexique de loi, le lexique... Alors, évidemment, c'est « law », c'est pas « loi », donc qui va le reconnaître hein ? Mais en fait, quand on fait les lois de Grimm, moi, j'ai appris ça en licence et je me suis rendu compte que j'étais capable de lire de l'allemand, en fait, en ayant fait du vieil anglais. Mais personne ne me l'a dit, j'ai découvert comme ça par hasard. C'est tellement dommage, vous voyez. Voilà, donc comparer, c'est une activité... cognitive ordinaire, entre langues, entre normes, hein, et que comparer, c'est pas opposer. Parce qu'attention, faut pas devenir non plus un staccanovisme de la comparaison des langues. Moi, quand j'ai sorti Comparons nos langues, le ministère m'a dit, Madame Auger, on va faire combien d'heures par jour ? Et j'ai dit, ah non, on va pas faire ça. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah non, mais toi, tu compares éponge et ponja en arabe dialectal, on va pas comparer ça, parce que ponja, c'est du dialectal, c'est pas l'arabe classique. Mais qu'importe, il a ça dans son répertoire. Et en plus, coup de chance, ponja et éponge, c'est proche, donc il va l'associer plus vite. Il faut être efficace, vous voyez, c'est pas le plurilinguisme pour le plurilinguisme. Moi, mon objectif, c'est les programmes. Hein, c'est les programmes scolaires des disciplines et les programmes scolaires en français. C'est pour ça, moi, que je fais du plurilinguisme. C'est pas pour le plurilinguisme lui-même en tant qu'idéologie. Il y a une idéologie du plurilinguisme, il y a une idéologie de tout, de toutes les manières. Hein, il n'y a aucun scientifique qui est à idéologie. Hein. Ce serait vraiment se leurrer et dire que, bon, on l'a bien vu avec ce qu'on a vécu avec le Covid. Hein. Voilà, donc vous voyez que tous les éléments convergents et divergents, vous avez tout un tas de moyens de réfléchir sur la langue avec les élèves. Alors ça peut être parce que vous voyez une erreur récurrente, ça peut être parce que c'est un programme que vous suivez ou à un moment donné, vous avez besoin de travailler sur la syntaxe, sur la morphologie, sur le lexique, sur les anaphores, cataphores aussi, etc., etc. Un autre exemple, la première fois que je fais une conférence dans une institution internationale en anglais, mes collègues, je leur demande, mes collègues anglophones, je leur dis « bon, ça a été, etc. » Ils me disent « oui, oui, c'était bien, mais c'est un peu désuet hein, quand même, ta façon de présenter. » Alors j'étais un peu vexée et puis je me disais « désuet, c'est comme mal dit en fait sur les copies, ça veut dire quoi ?» Qu'est-ce qui est désuet? Le lexique que j'ai utilisé, les formes syntaxiques, les photos que j'ai choisies, etc. Puis après, j'ai fait un stage. On nous paye 2 heures de formation par an à l'université en langue pour pouvoir exposer dans des conférences internationales dans différentes langues. Et là, mon prof me dit « Bon, ben voilà, tu veux présenter quelque chose sur les enfants gitans? Ben, tu commences par a joke. » J'ai dit « Ah non, mais a joke ?» Sur les enfants gitans, non mais moi là j'ai rien qui me vient à l'esprit. Il me dit non mais c'est comme ça hein, dans les conférences internationales, et c'est vrai que je l'ai vu après en allant aux États-Unis etc. pour détendre l'atmosphère. Ou alors il me dit ben tell a story. Alors, j'ai dit bon raconter une histoire ça je peux le faire. Mais voilà donc c'est ça en fait. Mais vous voyez c'est comme mal dit. Si on nous dit pas du point de vue linguistique, et là c'est le linguiste hein, qui remet sa casquette, si on travaille pas spécifiquement sur des points mal dit ou point d'exclamation oral. Ben, s'il n'y a pas quelqu'un à la maison qui peut aider l'élève, ça ne sert à rien, en fait. On utilise de l'encre rouge. Hein. Voilà. Donc, plus il y a des langues, plus les langues fonctionnent en famille, plus il y a de convergence et divergence. Et ce qui est intéressant, j'aime beaucoup, alors ça, je l'ai pris à Pierre Escudé, hein, qui est le maître de l'intercompréhension en France, c'est que chaque langue peut être à un moment donné source, cible ou pont. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'elles peuvent s'interchanger. Ma langue cible, c'est le français, mais à un moment donné, c'est l'anglais qui peut m'aider, une langue vivante enseignée dans l'établissement, ou bien une langue des élèves, etc., etc. Les élèves, en travaillant sur le théorème de Pythagore en français, mais ils ont aussi fait des vidéos pour le présenter dans les langues qu'ils connaissaient, par exemple en arabe, en dari et en turc, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de lexiques communs en turc et en arabe. Ils l'ont découvert. Donc ça, c'est intéressant aussi, vous voyez. Donc là, je vous laisse tous les programmes et toutes les méthodes et j'avance vite. Vous devez connaître ça, je ne vais pas vous passer un comparons nos langues, mais c'était vraiment mon idée il y a une vingtaine d'années maintenant, de pouvoir proposer justement une mise en perspective des langues, parce que les enseignants me disaient « mais comment faire ? Finalement, ces langues, c'est un problème, c'est un handicap. » Et moi, venant du français langue étrangère, langue seconde, je me disais « mais on ne peut pas le considérer comme ça, parce que c'est constitutif à ce qu'on est. » C'est comme si je vous disais « bah oui, mais nous, on ne court pas aussi vite que Usain Bolt, c'est un problème. » Mais on est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, j'ai bien aimé, ce matin, vous avez dit « il faut revenir à la réalité. » La réalité, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on apprend les langues. Donc, il faut être aussi, avoir des attentes qui correspondent à des fonctionnements cognitifs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez voir la vidéo. Et c'est ce que j'appelle le recyclage des langues et des normes. C'est-à-dire que les interférences, c'est une opportunité de prendre conscience que finalement, il y a des points communs ou il y a des divergences. Et vous voyez, donc ensuite, on en a conscience. Et quand il va y avoir une erreur, là, vous verrez, il y a un article en ligne aussi que je pourrais vous citer où on voit bien dans les interactions avec les élèves ce qui se passe, c'est qu'ensuite, quand il y a des erreurs, c'est les élèves eux-mêmes qui ont dit « Mais est-ce que c'est pas parce que ça existe dans une langue que tu connais, etc. ?» C'est eux-mêmes qui... voilà, parce que ce qui est important, c'est que l'élève, lui aussi, après, il s'empare de nos outils, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant. On voit bien que quand les élèves ils sont au courant de tous ces outils, ils sont plus actifs. Même ceux qui ne connaissent pas le métalangage, ça viendrait après. Hein, pour le moment, et on ne va pas dire adverbe, j'en sais rien, pronom tonique, etc. Ça viendra plus tard, mais pour le moment, on va regarder comment ça fonctionne dans les langues et petit à petit, on pourra réintroduire du métalangage qui est attendu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a beaucoup remotivé des enseignants qui disaient « mais moi, je ne savais pas quoi faire avec toutes ces langues, c'était un problème, au contraire, j'essayais de les mettre sous le tapis ». C'est pour ça que j'ai appelé ça le recyclage. Hein. Plutôt que de les mettre à la déchetterie, on va les mettre à la ressourcerie, hein, si vous avez ça dans vos villages, moi j'en ai une. Et donc, hop, on va remettre dans le cycle et ça sera intéressant. Je trouve que cette métaphore écologique est intéressante. Mais ça veut dire que pour nous, c'est inconfortable parce qu'on se met dans un nouveau rôle. Chaque fois, c'est comme ça. Hein. L'année dernière, j'ai une collègue américaine qui m'a dit « Oh, on va faire quelque chose sur l'interculturel. Nos étudiants vont se connecter avec tes étudiants en France. On va prendre un sujet et puis on va discuter de l'interculturel sur les modalités de vie des étudiants. » Mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais ce qui est formidable, chaque fois, ça me fait le même effet, en fait, hein, sur le terrain, c'est que les élèves, ils nous dépassent, ils dépassent nos attentes dans leurs remarques. Et ça, c'est vraiment... Enfin, c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent nous faire. Hein. Donc voilà, vous verrez ça. Alors si ça vous intéresse, si vous êtes professeur des disciplines, vous pourrez aller voir CONBAT+. Donc c'est comment on enseigne le contenu de base, hein, content-based teaching, plus le plurilinguisme et le pluriculturalisme en maths, en sciences, etc. Donc là, par exemple, en géographie, je travaille sur la définition des reliefs. Je demande à mes élèves dans la classe de me donner la définition dans les différentes langues qu'ils connaissent et je peux faire de la grammaire, je peux faire du lexique. Ah tiens, j'ai des montagnes qui sont féminines ou masculines. Ah tiens, faire une phrase de type générique, dans certaines langues, on a besoin de l'indéterminé, hein, una montaña, mais en espagnol, on peut aussi utiliser le zéro. Oh, zéro, en fait, c'est un article. Ah ben tiens, mais c'est pareil aussi des fois dans d'autres langues, hein, comme en anglais. Quand j'ai appris zéro en anglais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est cet article zéro ? Donc vous voyez, Goethe disait, je ne connais pas ma langue si je ne connais pas d'autres langues. Et en fait, c'est par ce détour. Et j'ai une doctorante qui m'a dit, mais tu sais, finalement, c'est pas qu'un détour, c'est un recours. Ben oui. Mais c'est ça, hein, la complexité s'écache à la fois. Vous pouvez le voir dans un sens ou dans un autre. Donc je vais rapidement passer parce que j'aimerais quand même qu'on passe au débat. Et je vais vous montrer, par exemple, en maths, ce qu'on fait. Donc, on travaille sur le cercle de centre haut. Il y a une petite coquille. Et il y a beaucoup d'élèves. Le cercle de centre haut, qu'est-ce que c'est que cette syntaxe, etc., etc. Donc, on a demandé aux élèves comment on le disait dans des langues qu'ils connaissaient, donc des langues vivantes enseignées au collège, des langues qu'ils connaissent par ailleurs, en famille. Et on s'aperçoit que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours l'idée de relation. Hein, avec la notion de « avec ». Alors que nous, ce « de » qui est très polysémique en français, ne donne pas ce sens de « avec ». Et là, les enfants, les jeunes, ils ont davantage mémorisé, ils ont davantage associé. Donc vous voyez, on pense qu'on prend du temps, qu'on perd du temps, on prend 5 minutes et en fait, on mémorise mieux et ça a plus de sens. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on fait. Donc maintenant, je vous pose la question, grille de lecture, le diamant, quand et comment vous utilisez les langues ou les normes connues par vos élèves pour leur permettre d'apprendre le français ? Ou un contenu disciplinaire, hein, d'accord ? Voilà. Autre chose, je vais passer rapidement, utiliser des ressources plurilingues. Donc, il ne faut pas hésiter à demander aux élèves d'amener leurs manuels, d'amener des livres de jeunesse, d'amener tout ce qu'ils ont à disposition. Et de créer aussi de la documentation avec les élèves. Je vous parlais tout à l'heure de fabriquer des posters. Il y a beaucoup de choses qui existent. Vous devez connaître les sacs d'histoire hein, de Genève. Toulouse aussi a repris. Et donc, c'est aussi des choses qui sont fabriquées avec les élèves, avec les parents. Donc ça, c'est très important. Voilà la diapositive que je voulais vous montrer tout à l'heure sur les attonances, les allitérations, etc. Ça a passionné les élèves. Hein. Ça a revisité Baudelaire. C'était très intéressant. Et donc, évidemment, grille de lecture. Quelles sont les acquisitions quel prêt de matériel, quelle création aussi vous allez faire dans votre classe, dans votre établissement, avec vos collègues, etc. Mettre en place des tutorats mutuels. Donc, ce qui est important, c'est de repérer les points forts et les goûts de nos élèves. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément dans nos cultures d'apprentissage. Et des fois, c'est des profs de maths qui découvrent oh, « mais en fait, ces élèves syriens, ils ont déjà vu telle et telle chose ». Après, par contre, la géométrie, vous savez qu'en France, on commence la géométrie beaucoup plus tôt que dans la plupart des pays, des autres pays. Donc ça, par contre, c'est une nouveauté. Donc, c'est pas grave. On peut organiser par îlot et l'élève plus avancé en géométrie peut aider l'élève allophone ou l'élève francophone qui a du retard dans ce domaine. Donc ça, c'est intéressant. Une autre facette, c'est de pas hésiter à utiliser nos contextes extérieurs de façon multilingue et multiculturelle. Donc ce qu'on a fait, par exemple, avec une médiathèque ou avec un musée de beaux-arts, c'est qu'on a proposé des visites multilingues. Donc on a travaillé sur la description, le genre descriptif. Donc vous voyez, c'est un objectif du programme en français. On peut travailler aussi avec le prof d'art plastique, mais on a travaillé aussi avec le prof d'histoire géo parce que c'était le littoral qui était une notion importante. Et comme on était à 7, évidemment, il y avait de nombreux tableaux sur le littoral méditerranéen. Et donc, on a fait un projet transdisciplinaire où les enfants ont décrit les tableaux en français. Donc, vous voyez qu'on travaille sur le français, on travaille sur la culture savante aussi à s'approprier. Et également, on a la possibilité ensuite d'avoir des visites multilingues où on a invité les parents, etc., etc. Donc, grille de lecture, quels sont les environnements qui sont intéressants avec lesquels vous aimeriez travailler autour de vos établissements ? Inclure les parents. Alors là, je n'ai pas le temps de vous montrer. Hein, c'est dommage, on pourrait faire une journée film parce qu'il y en a tellement. Mais vous pourrez cliquer sur le lien et vous verrez les parents roms hein, qui ne parlent pas français ou très peu, qui n'écrivent pas romani non plus et qui nous ont aidés à traduire des cartels pour un musée de beaux-arts aussi en romani. Donc c'était très intéressant aussi pour la ville de Sète de voir qu'il y avait le romani dans leur finalement héritage culturel. Et en même temps, donc, ses parents et les élèves ont écrit en romani, ont écrit aussi en roumain et en français et aussi dans les langues vivantes enseignées dans l'établissement. Et on a posé ces cartels une journée dans le musée et on a proposé aussi des visites. Voilà, donc il y a des témoignages de parents, évidemment, qui se disent beaucoup plus, qui se sentent vraiment un soutien pour leurs enfants. Donc là, il y a des guides aussi hein, qu'on a fait, que vous pouvez télécharger sur ces questions. Dernière chose qui est très importante, c'est de travailler ensemble. Ça, effectivement, il faut trouver les interstices pour le faire. Ce n'est pas forcément simple. Dans le projet Listiac, que je n'ai pas le temps de vous présenter, vous pourrez aller sur le site. Il y a des modules de formation pour des enseignants qui sont soit qui commencent la démarche de sensibiliser au plurilinguisme et à l'interculturel, soit des gens qui ont besoin de consolider, soit des gens qui sont experts. Et on propose un tapis de discussion. Donc en fait, c'est un protocole, comme un puzzle, hein, des pièces du tapis, où on se visualise comme l'enseignant du futur, hein, de demain, travaillant avec le plurilinguisme, qu'est-ce qu'on met en place dans sa classe, à l'échelle de son établissement, etc. Donc vous verrez, il y a tout un tas de modules. Vous pouvez les utiliser aussi. Et surtout, faites-nous des retours si ces modules vous ont intéressé. Sur ce site, Listiac, il y a aussi énormément de vidéos en maternelle, en primaire, au collège et au lycée, notamment lycée pro. Un autre projet, juste pour terminer, c'est le projet Sirius, éducation et migration. C'est que c'est très important, si on veut créer des territoires apprenants pour nos élèves, que le territoire apprenant, ce soit autour de l'élève, c'est-à-dire son établissement scolaire, mais aussi les musées, les médiathèques, les associations, les endroits où il va pouvoir faire des ateliers de pratiques artistiques et culturelles, sportifs. Et tout ça, en fait, c'est des moyens de développer des compétences langagières et culturelles. Et ce qu'on essaye de faire avec le projet Sirius, c'est de faire en sorte qu'il y ait des appariements d'établissements avec des associations d'aide aux devoirs, des associations culturelles, sportives, etc. Il y a des parents qui nous disent « Où est-ce que mon enfant peut faire du théâtre ?» Et vous voyez que tout ça aussi, on monte en puissance. Ça peut pas être que, ça peut pas reposer que sur les enseignants, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a créé Sirius. En impliquant aussi les familles. Il y a tout un onglet famille qui est développé par les familles elles-mêmes qui traduisent tout un tas de documents qui leur semblent intéressants pour les autres familles dans d'autres langues. Voilà. Donc, vous voyez que ce diamant, c'est une grille, finalement, et aussi un outil. Alors, je vais juste terminer en vous disant que, finalement, on a entendu beaucoup, vous l'avez aussi redit ce matin, est-ce qu'on est dans la langue maternelle, langue étrangère, est-ce qu'on est en milieu hétéroglotte, homoglotte, trans? Mais vous voyez que ça va aussi avec l'évolution de notre société, hein. C'est pas que sur les langues, hein, c'est sur les humains, en fait. Alors, moi, je le vois plutôt pan, c'est-à-dire je le vois plutôt comme un tout, hein, maximaliste, holistique, relié, branché. Hein. Ça me semble important que ce que je vous dis là, c'est pour tous les élèves, en fait. Bien sûr, ça va évidemment soutenir au premier chef les élèves allophones, mais en fait, pour apprendre des langues et pour entrer dans le français langue de scolarisation et les pratiques langagières des disciplines, les principes sont les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est pas si différent, finalement. Et ça permet de faire en sorte que l'école soit un lieu de cohésion sociale et de valorisation des expériences multiples pour tout le monde. Et ça accompagne effectivement les élèves à vivre dans nos sociétés ensuite en dehors de l'école. Alors maintenant, je vais laisser la parole aux élèves qui ont participé à tous ces projets, des élèves allophones, des élèves francophones. Et vous allez voir aussi tout l'intérêt pour certains hein, d'avoir participé à ces activités.
Je parle français et arabe.
D'abord, je viens du arabe parce que c'est la première langue que j'avais commencé à parler.
Je vais présenter ces tableaux-là en ma langue.
C'était le catalan. Je l'ai appris à l'école quand j'avais 3 ans.
Je l'ai présenté en mandarin.
Bosniak.
Plus tard, j'ai appris l'espagnol.
C'est une langue que je parle à la maison avec mon frère, ma mère et mon père.
C'est notre langue. On parle arabe.
J'ai trouvé ça super intéressant de valoriser en même temps ses élèves, de valoriser ses langues qu'on ne connaît pas toujours.
Dans ma classe, je savais qu'il y avait d'autres langues que le français, mais je ne pensais pas autant.
Tu apprends, tu découvres d'autres langues parce que je ne connaissais même pas. On était dans la même classe, ça fait 2 ans, mais je ne connaissais même pas.
Il y en avait, je ne savais pas y parler des autres langues. Moi, je croyais qu'ils ne parlaient que le français, mais on a appris des choses avec ces personnes.
Ben, ça m'a surpris qu'il y ait autant d'enfants qui parlent d'autres langues.
Je ne connaissais pas beaucoup de choses sur les gens de ma classe, et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses.
Je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse un peu à ma langue, à mes origines, un peu, tout ça. Ça fait plaisir.
C'est leur mettre face à eux ce dont ils sont capables. Et ce dont sont capables les autres aussi.
C'est d'apprendre aussi à mon fils l'origine de ses parents. Et voilà, ça nous a rapprochés encore plus.
L'italien parce que c'est la langue de ma famille.
On a vraiment un étalage de toute leur richesse linguistique dont ils n'ont pas forcément conscience eux-mêmes.
J'ai appris des choses sur mon origine, sur ma langue, et j'ai réussi à lire un texte en arabe. C'était très bien.
Es la mañana y como lo vemos, el sol ya está fuerte. El cielo es azul.
Est-ce que tu parles d'autres langues à part l'espagnol?
Je parle arabe et un peu de basque.
Plante pan, duratian, tengrota, e verde, portocalli, de rose.
Awa!
Salam
alaikum.
Rebecca. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Cuatro.
Cinco.
Cinco.
Seis.
Siete. Siete. J'aurais bien aimé expliquer aux autres ce que ça veut dire. Et moi, en arabe, leur expliquer ce que ça veut dire.
Ces élèves-là ont pu finalement conceptualiser peut-être un niveau supérieur que ce qu'ils auraient pu faire. En français, une classe est loin d'être monolingue. Et il faut quand même connaître sa classe pour pouvoir parler le même langage, c'est-à-dire pluriculturel et plurilingue.
Mon
radimateur,
est-ce
que tu as vraiment aimé travailler sur la langue de ta famille?
Oui, j'adore.
Il y avait tout le monde qui était fier de sa langue.
Voilà, je vous remercie.